Donc, je vais parler de qu'est-ce qu'une allocation équitable des droits de polluer. Le mot allocation peut se prendre ou bien dans le sens d'un processus d'allouer, ou bien dans le sens d'une répartition qui résulte d'un processus quelconque. Dans le premier sens, allocation présuppose un allocateur, même si ce mot ne se trouve pas dans le grand Robert, une personne ou une institution qui impose une certaine répartition. Dans le second sens, la répartition peut résulter d'un processus tout à fait décentralisé, et notamment par la négociation entre les parties concernées. On trouve un paradigme du premier cas dans ce que j'ai appelé dans un livre publié il y a 15 ans, la justice locale, local justice. Il s'agit de l'allocation en nature de biens rares et de fardeaux nécessaires, comme les reins pour la transplantation ou la sélection d'ouvriers pour le licenciement. On trouve un paradigme du second cas dans les négociations salariales, notamment les négociations collectives selon le modèle scandinave, que j'ai étudié dans un autre livre publié il y a presque 20 ans, The Cement of Society. Dans les deux cas, la justice locale, les négociations salariales, j'ai constaté l'importance des conceptions que se font les allocateurs et les négociateurs de ce que c'est qu'une allocation équitable. Je vais donc faire appel à ces travaux antérieurs pour soulever quelques questions qui se posent à propos de l'allocation des droits de polluer ou, dans un langage plus technique, l'allocation des droits d'émission des gaz à effet de serre. Puisqu'il n'y a pas d'ordre international qui puisse imposer une telle répartition, il doit forcément se faire par la négociation. Je dirais d'abord quelques mots du contexte. La crise du réchauffement global pose des problèmes d'ordre scientifique, économique, politique et philosophique. Il s'agit sans doute du défi le plus important et le plus difficile qu'ait jamais connu l'humanité. Le plus important, car il en va de l'intégrité du vaisseau spatial qui abrite l'espèce humaine, pour reprendre une phrase de Roger Guénery. Et le plus difficile, puisque la crise est d'une complexité qui risque de dépasser nos moyens d'analyse. Dans cet exposé, je mettrai entre parenthèses les aspects scientifiques et économiques en supposant connus à la fois la nature de la crise et les moyens techniques susceptibles de la surmonter. Je ferai donc abstraction de l'incertitude massive qui plane sur les causes du réchauffement et sur les réponses des individus et des entreprises aux mesures qui pourraient être prises pour retourner la situation. Une analyse plus complète exigerait évidemment d'analyser les implications de cet élément d'incertitude pour les questions de philosophie politique qui vont m'occuper aujourd'hui. La justice ou l'équité fait partie de notre problématique à deux titres. En premier lieu, il convient de se demander ce que nous devons aux générations futures. En deuxième lieu, il faut que les coûts associés à la réduction de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère soient répartis de manière équitable entre les nations. Là encore, il me faudra simplifier, car je me pencherai uniquement ou presque sur le rapport entre nations. Je dis presque, car je ferai aussi une brève référence à l'allocation de ces droits à l'intérieur d'une nation ou d'un groupe de nations. Il existe plusieurs moyens de réduire la concentration des gaz à effet de serre, notamment l'imposition d'une taxe carbone et l'allocation de permis d'émission. Le choix entre ces deux méthodes pose des problèmes qui dépassent et de loin ma compétence, mais sur lequel Roger Guénery pourra sans doute nous instruire cet après-midi. Je me pose donc une question hypothétique ou conditionnelle à supposer que les permis d'émission soient le moyen privilégié, quels critères doivent régir leur allocation? Comme je l'ai fait observer au début, cette question relève d'une problématique plus générale qui est celle de l'allocation équitable de biens rares et de fardeaux nécessaires. Dans une société donnée, il peut s'agir de l'allocation de reins pour la transplantation, du choix de recrues pour le service militaire, de la sélection d'ouvriers pour le licenciement, de l'allocation d'enfants pour l'adoption ou de la sélection d'étudiants pour les écoles de médecine. Il s'agit là d'allocations en nature qui se font en dehors du système général de transfert et de redistribution. Les biens relevant de ce système ont l'argent comme dénominateur commun et sont donc susceptibles d'être intégrés dans une vision d'ensemble de la justice sociale. En revanche, l'allocation des biens en nature se fait de manière sectorielle sans qu'il y ait de rapport quelconque entre les décisions prises dans les différents domaines. Celui qui se voit refuser l'entrée en école de médecine ne reçoit pas de compensation sous forme d'une exemption au service militaire. Les principes d'allocation de ces biens ou fardeaux sont d'une diversité quasi infinie, qui contraste avec les principes somme toute relativement simples qui guident les redistributions économiques. Prenons l'exemple de l'admission à l'université. Outre la méritocratie pure et simple, on observe dans les divers pays occidentaux l'utilisation de critères ou de procédures tels que les dons extrascolaires, comme le talent musical ou sportif, l'ancienneté de la demande d'inscription, la file d'attente, et j'ai vu moi-même, je pense, dans les années 70, les étudiants français apportaient leur sac de couchage pour s'inscrire à la faculté, le fait d'être issu d'une famille défavorisée ou d'une minorité ethnique, le tirage au sort, et même, dans les écoles de médecine en Hollande, des loteries pondérées avec les notes reçues à la fin du lycée servant de poids. Les critères les plus importants sont sans doute ceux de l'efficacité et du besoin. On admet soit celui ou celle dont l'admission pourrait le plus bénéficier à la société, soit celui ou celle qui pourrait le plus bénéficier de l'admission. Dans le contexte de la mondialisation, l'expression « justice locale » est évidemment peu appropriée. C'est pourquoi Olivier Godard propose de lui substituer l'expression « justice topique ». Je veux bien le suivre lorsqu'il s'agit d'allocation de permis d'émission aux membres de la communauté internationale, mais il ne faut pas négliger l'existence d'un processus d'allocation au niveau national. Alexia Loeser s'est penchée sur ce problème dans une thèse récente intitulée « L'équité de l'allocation initiale des permis d'émission négociables de gaz à effet de serre aux entreprises, donc à l'intérieur de la nation ». À la différence de l'allocation de permis aux différents pays, il s'agit donc d'une allocation imposée plutôt que négociée. Comme le note Alexia Loeser avec beaucoup de finesse, il importe surtout que les allocations ne déforment pas le processus compétitif normal. Il serait notamment inapproprié d'allouer les permis en fonction d'un prétendu droit à la survie des entreprises. Il existe également des procédures d'allocation à un niveau intermédiaire entre la communauté globale et l'État-nation. Ainsi, l'Union européenne a-t-elle discuté des principes d'allocation interne qui permettent aux pays les moins développés de l'Union de réduire leurs émissions moins rapidement que le taux de réduction moyen. On constate en ce domaine aussi un débat assez vif sur la base appropriée des calculs. La France, par exemple, doit-elle bénéficier du fait que ses émissions sont relativement faibles, alors que celles-ci sont dues au choix politique du nucléaire plutôt qu'au souci du climat? Puisque nous sommes dans un colloque sur la mondialisation, je vais pourtant faire abstraction de ces dimensions, pourtant intéressantes, pour me pencher sur l'allocation dans le régime international. L'allocation des permis d'émission n'en constitue pas le seul exemple, car on peut citer aussi les conflits sur le problème de l'allocation de l'eau ou du partage des fonds marins. Ces trois cas de justice topique se distingue de la justice locale, par l'absence d'une autorité centrale capable d'imposer une décision. Les décisions ne pourront résulter que de négociations. Comme j'ai pu le constater à propos des négociations salariales, ce mode de décision favorise l'usage stratégique des arguments d'équité. Et j'y reviendrai vers la fin de l'exposé. Les droits d'émission se distinguent pourtant de l'allocation de l'eau ou du partage des fonds marins par trois propriétés essentielles. En premier lieu, il n'y a pas de rareté naturelle de ces droits. Avant de choisir la manière de les allouer, il faut donc déterminer le nombre à en créer. En deuxième lieu, une fois alloués, ces droits sont négociables, ce qui n'est pas le cas pour l'eau ou les fonds marins. Enfin, dans le cas du réchauffement, on se heurte au problème fondamental des externalités. Toute solution négociée est vulnérable au problème du passager clandestin ou du cavalier seul. Je commence par deux méta-principes que j'appellerai l'individualisme éthique et le présentisme éthique. Tout en ne constituant pas en eux-mêmes des principes d'allocation, ils servent de contrainte à la formulation de tels principes. En disant qu'ils servent de contrainte, j'adopte bien sûr une perspective normative. Dans la réalité, comme le montrent les exemples concrets de la justice locale et de la justice topique, les principes d'allocation enfreignent souvent ces contraintes. L'individualisme éthique, c'est donc l'idée que dans l'évaluation d'un état du monde, du point de vue éthique, on ne doit tenir compte que des variables définies au niveau des individus, que ce soit leur bien-être, leur capacité, leurs devoirs, leurs droits, leurs mérites ou leurs responsabilités. Ce principe comporte deux antonymes distincts. Puisqu'on peut prendre compte soit des faits supra-individuels, soit des faits non-individuels. Pour illustrer l'idée de faits supra-individuels, supposons que dans un état initial, A, de la société, on a deux groupes d'hommes de taille égale, 1 et 2, deux groupes de femmes de taille égale, 1 et 2, dont les revenus sont comme indiqué dans le schéma. Et dans cet état du monde, l'état A, la situation moyenne des deux sexes est fortement inégale, 9 et 5. Dans une réforme motivée par le désir d'égaliser leur situation, on établit l'état du monde B, dans lequel le revenu moyen des deux sexes est en effet le même. Or, du point de vue de l'individualisme éthique, cette réforme est inacceptable, puisqu'elle augmente l'inégalité non seulement à l'intérieur des femmes et à l'intérieur des hommes, mais dans la société prise dans son ensemble. Et le même raisonnement s'applique, et c'est la raison pour laquelle j'ai introduit cet exemple, au rapport entre les nations. Un effort pour rendre plus égaux les revenus moyens des différents pays n'a aucun sens moral s'il s'accompagne d'une inégalité croissante entre les individus. Pour illustrer l'idée de fait non individuel, je renvoie d'abord à l'exposé que vient de faire Philippe Descola. Mais je prends quand même deux exemples. Premièrement, on peut considérer la biodiversité comme une fin en soi, indépendamment des besoins humains qu'elle permet ou permettra peut-être un jour de satisfaire. Pour un autre exemple, on peut prendre l'objection faite à l'idée d'utiliser l'espace extraterrestre pour y déposer les déchets radioactifs des centrales nucléaires. D'après certains, cette pollution de l'espace est intrinsèquement mauvaise. Si la prise en compte des faits supra-individuels rappelle Hegel, l'appel aux faits non-individuels est sans doute plus proche du spinozisme. Et je note, entre parenthèses, que le créateur de l'écologie profonde, mon compatriote Arne Naess, était aussi un grand spécialiste de Spinoza. Je dois d'ailleurs le citer au présent et pas au passé, puisqu'il vient de fêter ses 95 ans. Le présentisme éthique. C'est l'idée que du point de vue éthique, seuls comptent les individus vivants. Les individus du passé n'ont une pertinence éthique que dans la mesure où ils ont laissé des traces dans le présent. Ainsi, une personne peut réclamer une compensation pour une peine injustifiée qu'on lui a infligée, mais elle n'a aucun droit moral à une compensation pour la souffrance infligée à son arrière-grand-père, sauf dans le cas où le traitement de ce dernier a eu un effet négatif sur la situation de son descendant dans le présent. Et encore, deuxième condition, il faudrait qu'il existe une autre personne qui ait l'obligation morale de payer la compensation. Je reviendrai sur ce dernier point. Considérons maintenant la pertinence de ces idées pour l'allocation des permis d'émission. Le principe d'une allocation de permis proportionnelle à la population du pays respecte évidemment l'individualisme éthique. En revanche, le statut de ce qu'on appelle parfois le droit du grand-père, grandfathering, est plus ambigu à cet égard. Selon ce principe, adopté dans le protocole de Kyoto, l'allocation de permis doit être proportionnelle au niveau des émissions actuelles des différents pays, de sorte qu'un pays grand pollueur reçoit un nombre de permis beaucoup plus élevé qu'un pays en voie de développement à population égale. On comprend très bien que ce principe puisse surgir comme une solution négociée qui ne dépendrait que des rapports de force des différents pays. En revanche, on voit mal la force normative de ce principe, qui dépend essentiellement du statu quo au moment de la signature des accords. Dans la littérature sur le sujet, on justifie parfois le droit du grand-père par le principe de la souveraineté des nations. Dans un article de référence, ce principe s'énonce ainsi. Ainsi, toute nation a un droit égal à polluer et à être protégée de la pollution. Mais, dans la perspective de l'individualisme éthique, seuls les individus sont porteurs de droits moraux. Je ne parle pas, bien sûr, des droits légaux. Le principe de l'individualisme est respecté dans l'énoncé, dans le même article, qui porte sur le principe d'une allocation proportionnelle à la population. Toute personne a un droit égal à polluer à être protégé de la pollution. Donc, dire que toute nation a un droit égal, à mon avis, c'est un non-sens. Dire que toute personne a un droit égal, c'est parfaitement acceptable. À mon avis, donc, le droit du grand-père ne reflète pas un principe de souveraineté, mais plutôt, comme je l'ai fait remarquer, le rapport des forces. Parfois, on utilise aussi l'expression « un droit du statu quo » comme si ce qui existe pouvait conférer un droit quelconque. Il est plus acceptable, à mon avis, d'affirmer le droit des individus et des entreprises de ne pas souffrir de changements abrupts et de pouvoir s'adapter d'avance au régime annoncé. Ainsi, plutôt que le droit du grand-père, on aurait une clause du coucher de soleil, a sunset clause. On a aussi proposé de considérer l'allocation des permis d'émission sous un angle historique, en imposant une réduction d'émissions plus importante aux pays qui ont le plus contribué au niveau élevé des gaz à effet de serre dans le présent. C'est ce qu'on appelle la proposition brésilienne, par référence à son avocat principal. La détermination de la responsabilité causale soulève évidemment de nombreuses complexités scientifiques qui, encore une fois, débordent ma compétence. Mais on peut néanmoins poser la question normative suivante. Ce critère historique, en supposant qu'on puisse l'appliquer de manière fiable, est-il défendable? On répond souvent à cette question par la négative, en affirmant que les générations précédentes non seulement ne savaient pas, mais n'avaient pas le moyen de savoir les conséquences lointaines de leur activité. Imposer des coûts à leurs descendants serait donc une forme extrême de la responsabilité objective, laquelle est généralement considérée comme moralement inacceptable. À cet argument, on peut en ajouter un autre. Même si les ancêtres agissaient en toute connaissance de cause, ils ne seraient pas justifiés de punir leurs descendants si ceux-ci n'ont pas bénéficié de ces actions. S'il faut croire les historiens économiques, selon lesquels l'Empire britannique fut une perte nette pour les Anglais, il serait injuste aujourd'hui de demander aux Anglais de dédommager les descendants des victimes de leurs ancêtres. Ces ancêtres savaient sûrement, ou devaient savoir, le mal qu'ils faisaient. Les descendants de leurs victimes sont, supposons-le, en plus mauvais état qu'ils ne l'auraient été autrement. Mais, et c'est là le fait crucial, selon ces historiens, les Anglais de nos jours ne sont pas en meilleure situation qu'ils ne l'auraient été autrement, et ils ne méritent donc pas d'être punis. Le réchauffement climatique ne pose évidemment ce problème, car les pays historiquement pollueurs ont certainement bénéficié de leurs actions. Or, même dans ce cas, et même en supposant que les pollueurs ont agi en toute connaissance de cause, ce n'est pas leur contribution historique, mais plutôt leur richesse contemporaine qui justifie à leur égard un régime plus sévère. Car supposons que nous ayons affaire à un pays qui est aujourd'hui très pauvre, dont la responsabilité historique pour le niveau actuel de pollution est très élevée, mais dont les dirigeants de la génération précédente ont détruit la base industrielle à la suite de guerres dévastatrices. Donc, entre 1800 et 1960, industrialisation rapide et très polluante, et même, on peut même supposer que les dirigeants économiques et politiques aient été pleinement conscients des conséquences de leurs actions. Entre 1960 et 2000, guerre civile dévastatrice, avec destruction complète de la base industrielle, et un niveau de vie aujourd'hui égal à celui des pays en voie de développement les plus pauvres. À mon avis, il serait absurde, dans ce scénario, de tenir les membres de la génération présente responsables des fautes de leurs ancêtres immédiats et lointains, puisque si la génération présente n'avait en rien bénéficié de ces fautes. Bien que l'exemple soit hypothétique, il me semble que la forte intuition que ce traitement serait injuste suggère que la proposition brésilienne repose sur une confusion de deux propriétés des pays développés, leur richesse contemporaine d'une part et leur responsabilité historique de la crise contemporaine d'autre part. Il convient donc de se demander si la richesse des pays développés justifie de leur imposer un fardeau plus grand. Et ma réponse, c'est un peu ambiguë, en principe non, dans la pratique oui. Pour motiver cette réponse, remontons à la justice locale. Comme je l'ai fait observer, les allocations en nature ne font pas partie du système de transfert et de la redistribution. Ce sont deux univers normatifs distincts, ayant chacun ses principes propres. Personne, par exemple, n'a songé à atténuer la pauvreté en donnant la priorité aux pauvres dans l'allocation des reins pour la transplantation ou en les exemptant du service militaire, car il est évident que seule une politique systématique et cohérente serait susceptible d'avoir les effets désirés. De manière semblable, il me semble que la justice topique dans l'allocation des permis d'émission et la justice redistributive à l'échelle mondiale appartiennent à deux univers normatifs distincts. Là encore, la réduction de la pauvreté mondiale devrait en principe se faire de manière systématique et cohérente. Et une fois opérée la redistribution optimale, on pourrait rechercher l'allocation équitable des droits d'émission. Or, cette proposition est à la fois trop abstraite et trop idéaliste. D'une part, la redistribution à l'échelle mondiale ne se fera pas du jour au lendemain. D'autre part, la magnitude et l'urgence du problème de réchauffement l'emportent sur les questions de redistribution. On peut en conclure, je pense, que la plus grande capacité de payer des pays développés leur impose effectivement un devoir de sacrifice plus grand. Jusqu'ici, j'ai cité quatre critères d'équité qui ont été évoqués dans les débats sur le sujet. Donc, une allocation de permis d'émission proportionnelle à la population, une allocation proportionnelle au niveau d'émission actuelle, une allocation qui impose des réductions plus grandes aux pollueurs historiques, et enfin, une allocation qui impose des réductions plus grandes aux pays les plus riches. Et cette liste est très loin d'épuiser tous les critères possibles, puisqu'on a aussi proposé, par exemple, les principes suivants. Une allocation qui égalise les gains ou les pertes de bien-être, en proportion du PNB, ou une allocation qui accorde plus de permis aux pays qui sont les plus touchés par le réchauffement global, puisqu'il y a certains pays qui vont en bénéficier. Enfin, on a proposé ce qu'on pourrait appeler des contraintes d'équité plutôt que des principes d'équité, dont notamment les suivants. Aucun pays ne devrait souffrir une perte nette du bien-être et les pays les plus pauvres ne devraient souffrir aucune réduction de leur niveau d'émission. La liste ne s'arrête pas là, mais je pense en avoir dit assez pour vous faire comprendre combien sont diverses les solutions proposées. En fait, la diversité est encore plus grande que ne le suggèrent ces listes. Si nous remontons de nouveau à la justice locale, nous constatons que les allocations se font très souvent par la combinaison de plusieurs critères. Parfois, on utilise un système de points, parfois un système dit lexical, dans lequel un critère secondaire est utilisé lorsqu'il y a égalité selon le critère principal. De cette manière, on cherche à tenir compte de plusieurs conceptions de l'équité, dont chacune semble séduisante, même si aucune ne s'impose absolument. Et je vous donne un exemple. Il s'agit du système de démobilisation adopté par l'armée américaine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque la plupart des combattants désiraient rentrer le plus tôt possible, l'ordre dans lequel ils étaient démobilisés représentait un enjeu important. Afin de créer un système de priorité équitable, les autorités de l'armée américaine utilisèrent trois critères: le fardeau du service, le mérite dans le combat et le besoin familial. De manière plus précise, elles accordèrent un point pour chaque mois servi dans l'armée, un point additionnel pour chaque mois servi outre-mer, 5 points pour chaque médaille de combat et 12 points pour chaque enfant ayant moins de 18 ans jusqu'à 3 enfants. Et les soldats accumulant 85 points ou plus furent ensuite démobilisés les premiers. Et dans les débats sur l'allocation des permis d'émission, on rencontre souvent des propositions de critères mixtes. Une formule, par exemple, propose que la réduction doit se faire selon une formule qui tient compte du PNB, des émissions actuelles par unité de PNB et de PNB par tête, pondérées selon des coefficients dont la somme égale l'unité. Et si, pour des raisons politiques, il fallait tenir compte de critères historiques, on pourrait les combiner avec des critères contemporains ou synchroniques. Le choix des critères et le choix des poids est largement intuitif, à la fois dans un sens ex ante et dans son sens ex post. D'une part, même s'il n'y a pas de super théorie qui dicterait une formule précise, on peut avoir une intuition préalable et abstraite de l'importance relative des critères. D'autre part, lorsqu'on calcule les allocations qui résultent de telle ou telle formule, on peut les juger plus ou moins acceptables. On peut ainsi espérer qu'il y aura un va-et-vient entre les jugements abstraits et les évaluations concrètes, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle, depuis John Rawls, un équilibre réflexif. Mais dans la pratique, rien n'est moins certain, puisque les intuitions des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Il convient de retenir et d'insister sur la pluralité presque illimitée des critères. Dans les cas où il n'existe qu'une seule conception de l'équité qui est un minimum de plausibilité, il y a une forte pression normative de s'y conformer. Les nations, comme les individus, ont du mal à reconnaître qu'ils n'agissent que dans leur intérêt propre. Or, dès le moment où les nations sont confrontées à toute une gamme de conceptions rivales de ce que c'est qu'une allocation équitable, elles ont le moyen, et souvent le mobile, de choisir parmi celles-ci une qui se rapproche de manière optimale de leur intérêt. Et je dis bien optimale plutôt que maximale, car il n'est pas dans l'intérêt d'un acteur de proposer un critère d'équité qui corresponde trop parfaitement à son intérêt. Dans le cas de la justice locale, on constate souvent en effet que les acteurs déguisent leur motivation intéressée en faisant des propositions dont ils ne sont pas les seuls et uniques bénéficiaires. Même si la proposition brésilienne profite au Brésil, ce pays aurait sans doute pu trouver une formule qui lui aurait été plus favorable encore, en incluant, par exemple, la présence de forêts tropicales comme une variable pertinente. Mais cette proposition aurait été trop voyante. Pour éviter des malentendus, il est sans doute bon de préciser que je prends le mot « déguisé » dans un sens faible qui inclut la duperie de soi-même aussi bien que l'hypocrisie consciente. Et je pense en effet que dans la vie sociale, cette dernière, l'hypocrisie pleinement consciente d'elle-même, est assez rare. Ce qu'on observe beaucoup plus souvent, c'est que l'esprit tend à graviter spontanément vers une conception normative qui s'accommode avec l'intérêt. La sincérité de la conviction n'en est pas affectée, ce qui ne lui donne que plus de force dans les négociations. J'ai en effet fait observer à plusieurs reprises que, en absence d'un ordre international, un accord sur l'allocation des émissions doit forcément se faire par la négociation. Chaque partie va alors chercher à renforcer sa position en apportant des arguments normatifs. C'est un phénomène que l'on observe souvent dans les négociations collectives, par exemple dans les négociations entre syndicats sur le profil de demande qu'ils vont présenter aux employeurs. Typiquement, les syndicats de travailleurs peu qualifiés insistent sur un profil égalitaire, tandis que les plus qualifiés proposent un profil proportionnel, qui tient compte aussi du niveau de formation. De manière semblable, les nations riches tendent à prôner la proportionnalité et les nations pauvres, l'égalité. Je simplifie bien sûr une réalité infiniment complexe, sans pourtant, je l'espère, la déformer complètement. Si les arguments normatifs constituent un atout pour l'acteur individuel, leur conjonction peut aboutir à un désastre collectif. C'est que celui qui renonce à un principe se sent justifié à demander une contre-concession plus grande que celui qui ne renonce qu'à son intérêt. Lorsque ce comportement intransigeant se généralise, la somme des concessions demandées excède facilement le domaine du possible. Comme le remarque quelque part Roger Guénery, il faut peut-être attendre ce qu'il appelle un accroissement spectaculaire du danger pour que le sort commun l'emporte sur les avantages de chacun. Je vous remercie.